Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Je reçois aujourd'hui Marlène Duchesne et vient nous parler de rétablissement des troubles alimentaires. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet. Pourquoi notre cerveau ne s'arrête jamais de penser? Notre chroniqueuse Véronique Bobo est aussi des nôtres. Elle nous apporte sa chronique, la face cachée positive de la ménopause. Tout ça à Folie douce. On commence avec Clay and Friends, avec Marilyn Léonard, la chanson Cardin. Bienvenue chez nous.
Dans l'avion avec Charlotte Cardin. Si on s'écrase, mais ça parlera juste d'elle. Et vu que c'est ça le succès, j'ai fait Paris-Bruxelles dans la même chemin. Open up and yeah, yeah. It's gonna be good time. Sans pendu de kid à la radio Nova. Alors là, du coup, c'est quoi cette life? Don't get high on your own supply.
I wish you told me before. So you did, I ran out of time. I got the best of you.
You got the best of me. Oh, t'avais besoin d'espace comme une astronaute. Le seul ghost sweater dans la vie qui se fait ghost. Bain full au club, sort de seul au monde sous la douche. T'es bleu comme mes blue jeans plus high que Louis. Encore 2020, ça part mal la journée. Montréal sans l'été. Ok, Sonny, on va finir par la voir.
I wish you told me before. I'm sorry that I ran out of time.
Got the best of me.
Wish you told me before. You know they say that nothing changed.
Plus ça change, plus c'est pas. De la ligne verte, j'écris cette chanson dans ma tête. Pendant que tu m'expliques que je n'écoute jamais.
Jamais.
Oh no, till you're gone somewhere by the Frank Ocean. Je m'aime mieux avant de me connaître. C'est la carotte devant le lit. Till I'm up on Jimmy Fallon. Gotta tell him.
I wish you told me before. Sorry that I ran out of time. I got the best of you, got the rest of me.
Vous êtes branché sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
Je rejoins maintenant mon invitée, Mme Marlène Duchesne, au bout du fil. Bonjour, Mme Duchesne. Bienvenue à Folie douce.
Bonjour.
Bonjour. On va parler de rétablissement ensemble. Surtout, tu sais, on entend souvent ça, le rétablissement de plus en plus ces dernières années. Là, c'était, c'était nouveau il y a quelques années, mais comment y arriver? C'est, encore une fois, c'est un peu un concept. C'est un peu comme le bonheur. Là, on dit on veut avoir du bonheur ou on veut être heureux, mais comment on y arrive? C'est un peu la même chose avec le rétablissement. Parlez-nous donc d'abord de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au rétablissement en santé mentale, finalement?
Ben, en fait, je suis une personne qui a cohabité durant quand même plusieurs années avec une maladie mentale, en fait, avec une coloc un peu meurtrière, parce que l'anorexie, c'est la maladie mentale la plus meurtrière, en fait. Et j'ai trouvé ça extrêmement difficile à l'époque, parce qu'on retourne il y a 40 ans, de ne pas avoir d'autre d'aide que le milieu hospitalier qui était bien que... qui n'avait pas existé, probablement que je ne serais pas nécessairement avec vous, mais c'était quand même difficile pour moi de toujours devoir fréquenter les hôpitaux. Et quand j'ai sorti de ma dernière hospitalisation, j'ai participé à une émission qui s'appelait Écoute-moi à l'époque avec Jean-Marie Lapointe particulièrement, puis je dénonçais le manque de services et de fil en aiguille, on s'est ramassé à un petit comité et j'ai parti de la Maison L'Éclaircie avec d'autres personnes, qui est un organisme communautaire à Québec en troubles alimentaires, parce que j'avais à cœur qu'une personne qui vit de la détresse puisse avoir une porte dans la communauté où elle pourrait aller cogner, et non pas simplement là, le milieu hospitalier.
Oui. Diriez-vous que c'est encore les troubles alimentaires sont encore tabous aujourd'hui, au moment où on se parle?
Non, je dirais pas tabou encore, peut-être non, parce qu'on en parle maintenant énormément. C'est une bonne chose. Par contre, est-ce qu'ils sont bien, est-ce que les gens comprennent bien? Ça, c'est une autre affaire.
Ouais. C'est vrai, on comprend pas tant que ça. Tu sais, je pense que c'est assez simple dans la tête des gens. C'est ou bien quelqu'un qui est outre-mangeur ou quelqu'un c'est qui ça. Se fait vomir. Ou, tu sais, fait que, tu sais, ça se résume pas à ça, je pense.
Pas du tout, pas du tout. Il y a beaucoup de nuances là-dedans. Et si la solution était aussi simple que mange plus ou mange moins, je pense que toutes les personnes, moi inclus, on aurait comme pris cette solution-là. Il y a personne qui, ouais. qui cherche à souffrir éternellement. Là.
Comment on peut définir, disons, les troubles alimentaires? C'est quoi? C'est une réaction? On ne peut pas dire que c'est une addiction? Comment on peut définir ça?
Ben, en fait, c'est sûr qu'à la base, le trouble alimentaire, là, moi, c'est sûr qu'il y en a plusieurs, hein, donc je ne peux pas nécessairement m'étendre là-dessus, mais si je vous parle, mettons, de l'anorexie ou la boulimie, ouais. ceux qu'on entend le plus parler, ben, c'est sûr qu'à la base, c'est vraiment une obsession dans le fond du corps et de tout ce qui concerne le poids, l'alimentation. C'est vraiment obsessif, là. Ça l'occupe les pensées continuellement. Il y a une insatisfaction dans le fond de l'image corporelle, donc une mésestime. La personne, dans le fond, elle ne se voit pas du tout comme elle est. Et il va avoir, en fait, un peu la pensée magique de croire que le problème, c'est son corps. Donc, on va tenter de, par tous les moyens, de le modeler à sa façon, mais le corps étant ce qu'il est, on peut pas nécessairement jouer avec lui de cette façon-là. Il va nous lancer des signaux, il va réagir, là.
Ouais, puis de toute façon, il y a tous les types de corps. On n'est pas des robots avec un seul modèle, tu sais. À quelque part, tu sais, notre corps peut être différent des autres, puis il peut être en très bonne santé, puis très bien. Là.
Tout à fait, là, tout à fait. Donc, mais quand on vit un trouble alimentaire, en fait, on bousille complètement notre santé là, avec les modes de privation, compulsion, vomissement et toutes les méthodes compensatoires qui peuvent exister, l'exercice physique à outrance. Là, c'est vraiment une prison, en fait. T'es comme prisonnier de ta perception erronée de toi-même, mais que tu prends pour la réalité. Donc, il y a comme tout un cheminement de réconciliation avec soi, avec son corps, avec qui on est, et qui se fait pas du jour au lendemain. Là.
Oui. Est-ce que c'est le temps qui fait en sorte qu'on est capable de commencer un rétablissement? Ça doit être long aussi comme rétablissement,
ben,
c'est pas instantané.
Oui, c'est sûr, parce que l'alimentation, c'est continuellement dans notre quotidien.
Ouais.
Donc, la personne doit s'exposer à ce qui lui fait le plus peur 3 fois par jour, plus les collations, là, quand vient le temps du rétablissement, là, il y a comme tout un peu un modèle nutritionnel idéal à suivre. Donc, c'est sûr que, ben oui, il y a le temps, ça demande beaucoup de temps de la part de la personne, mais aussi de l'entourage, parce que souvent l'entourage aimerait aussi comme que ça puisse se régler rapidement, mais on parle d'estime de soi, là, on parle d'image corporelle, on parle de confiance en soi. C'est pas magique, ça, là. Ouais. Donc, il y a un travail à faire. Et il y a aussi, ben, beaucoup d'efforts à faire, parce que l'obsession intérieure, le dialogue intérieur qui est très, très négatif, qui est très présent, les peurs, l'anxiété, ben, ça demande un effort vraiment volontaire de devoir continuellement aller contre ça. La voix qui dit, on mange pas, tu vas prendre du poids, fais pas ça parce qu'on t'aimera pas. Il y a vraiment un effort, là. C'est très exigeant d'outrepasser un peu ce dialogue-là que tu penses être toi, mais en réalité, c'est un dialogue intérieur, encore là, un peu maladif, là.
Oui. Comment on fait pour s'en sortir? Est-ce qu'on doit trouver une cause? Est-ce qu'on doit mieux se comprendre? C'est quoi le déclic, de peut-être dans votre cas? Qu'est-ce qui a été le déclic? Parce que vous semblez avoir une très bonne perspective avec la situation. Tu sais, vous avez fait des conférences, tout ça, donc vous l'avez digéré, là, sans mauvais jeu de mots, tu sais, la problématique. Mais on commence comment, là?
Ben, en fait, ça prend une décision. En fait, moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi je fais ça. Ça aurait été long, probablement que je serais encore là-dedans, là.
Ouais.
Les réponses vont venir en chemin. Donc, moi, j'ai juste dit que si je ne prenais pas une décision, j'allais en mourir. Et comme je ne voulais pas mourir, mais que je savais pas comment vivre, ben, je me suis dit, ben, je vais essayer de vivre, puis on verra en cours de route. Tu sais, dans le fond, les réponses viennent en cours de route. C'est sûr, avec l'ouverture, l'intention aussi de... Moi, je me disais, c'est impossible que ce soit ça, ma vie. Je peux pas me résoudre à ce que ma vie va être de calculer les calories, de rentrer dans les hôpitaux. J'étais rendue à 17 ans à ce moment-là, de 13 à 17, 18 ans. À l'époque, c'était ce qu'on appelle Robert Gifford, qui était comme la prochaine étape. Puis pour moi, ça a été, en fait, j'avais tellement peur d'aller là que la peur a été un levier. Cette peur-là a comme supplanté toutes les autres peurs pour me dire, il faut que je fasse quelque chose.
C'est souvent ça en santé, tu sais, la peur de, tu sais, les gens, je sais pas, ont un problème, de, n'importe quel problème de santé, souvent la peur va faire réagir, va faire prendre des décisions, puis va nous motiver à faire des changements.
Oui, tout à fait. Donc, dans ce cas-là, ça a tout le temps été de m'éloigner de cette institution-là. Et pour ça, ben, je devais faire des trucs, même si la peur était là de l'autre côté. La peur m'attendait tout le temps, dans le fond. T'es continuellement, comme partout où tu tournes, la peur est là, mais tu choisis celle qui peut peut-être t'aider à te hisser un peu plus haut, là.
Oui. Madame Duchesne, donc, est-ce que vous trouvez que votre situation est beaucoup mieux parce que vous semblez très bien, mais, mais êtes-vous toujours à risque quelque part
non?
On ne peut pas comparer ça à des addictions où les gens disent, dans le fond, je suis toujours un peu à risque, là, mais c'est pas nécessairement le cas avec les troubles alimentaires.
Ben, tu sais, moi, je pense que chaque situation est différente, puis c'est aussi le regard que tu y portes. Moi, j'ai décidé que c'était derrière moi. Ça fait partie de moi, c'est dans mon histoire. Je me sers de ça pour maintenant contribuer à ma communauté. Tu sais, moi, dans le fond, me rappeler que j'ai vécu tout ça pour justement, ne pas avoir de pensée d'y retourner, mais ma vie est tellement différente. Je veux dire, je impossible pour moi de recroire cette voie-là qui me dirait, par exemple, que si j'étais plus mince, que je serais plus heureuse. Je l'ai essayé, t'sais, et je suis très heureuse aujourd'hui. Donc, je ferai un petit meeting avec cette voix-là en disant, ben, tu peux aller comme passer ton chemin. Là,
oui, c'est ça. Mais en plus, probablement qu'on se rend compte qu'on a un contrôle. T'sais, en se rétablissant, j'imagine que la nourriture est plus quelque chose qui nous fait peur, parce qu'à l'époque, ça devait toujours vous tourmenter. Parce que,
ah ben oui.
C'est ça.
En fait, la nourriture, c'est 10% du problème. Là. C'est une relation avec soi, c'est beaucoup d'anxiété. En fait, au niveau de trouble alimentaire, il y a énormément d'anxiété, de peur de vivre, de peur de déranger, de peur d'exister. Là, j'en nomme plein. Ça ne veut pas dire que tout le monde les a, mais il y a comme, dans ma situation à moi, je me suis faite le plus petite possible comme pour disparaître parce que j'avais l'impression que j'avais pas ma place ici, que je trouvais pas ma place ici. Donc, c'est profond, là. On doit quand même reconnaître que c'est pas une lubie, c'est pas un caprice, là. C'est loin de là.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus prédisposés à développer des troubles alimentaires? Avez-vous comme lu des choses ou entendu des choses?
Oui, bien, c'est sûr qu'au niveau, tu sais, t'as les prédisposants, les précipitants puis les perpétuants, mais au niveau des prédisposants, puis encore là, ça reste, je veux pas en faire une généralité, mais au niveau des traits de caractère, bien, c'est différent dans l'anorexie ou dans la boulimie. Tu sais, dans l'anorexie, c'est souvent des jeunes femmes, il y a des jeunes hommes aussi, très perfectionnistes, qui ont justement un désir immense de plaire, quitte à s'oublier complètement. Plutôt introvertis, donc les émotions, on ne sait pas trop quoi faire avec ça, fait qu'on refoule, on inhibe. Très bon un peu partout. Ils excellent dans tout ce qu'ils font, mais une estime de soi vraiment comme à moins 10. Et ce qui différencie les traits de personnalité dans la boulimie vont beaucoup se ressembler. La distinction dans la boulimie, c'est l'impulsivité qui n'est pas dans l'anorexie. L'anorexie, il y a toute la personnalité raisonnable. Tu sais, parce que pour te priver durant des années, te t'inhiber comme ça, il t'a vraiment comme une rigidité, je dirais, là, puis un contrôle excessif. Dans la boulimie, il y a l'impulsivité, et c'est l'impulsivité qui fait en sorte que la personne va faire des pertes de contrôle, entre autres. C'est ce trait de personnalité-là.
Ouais. Si des jeunes, c'est souvent peut-être chez les jeunes, filles et garçons, mais s'il y a des jeunes qui nous écoutent et ils ont cette problématique, ils commencent par où pour pouvoir s'en sortir? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil?
Ben en fait, puis j'aimerais juste dire que maintenant, c'est plus nécessairement des adolescents, seulement des adolescents ou des jeunes. Il y a des femmes, il y a des hommes. C'est juste que ça prend différentes formes avec la société dans laquelle on vit, qui est un peu, entre guillemets, malade aussi, là, avec des standards qui ont comme pas d'allure. Là. Mais c'est sûr que la première étape, c'est la plus difficile, c'est-à-dire c'est de reconnaître que ce que je vis, c'est un problème. Parce qu'en réalité, toi, tu penses que c'est une solution. Tu sais, moi, je voulais être heureuse, donc en maigrissant, je me sentais mieux. Donc, c'était une solution pour moi, mais j'avais un problème.
Ouais.
Donc, c'est pas évident. Surtout dans l'anorexie, les gens vont, ça va être long avant qu'ils consultent parce que pour elles, c'est comme, ben, ça marche mon affaire, je perds du poids, c'est ça que je veux. Dans la boulimie, les gens vont aller consulter plus rapidement parce que les pertes de contrôle deviennent tellement souffrantes, là, le fait de faire une compulsion alimentaire, c'est très, très impressionnant. Et là, ils vont consulter parce qu'ils veulent arrêter de faire ça puis ils veulent recommencer à se priver. Mais à tout le moins, on les a un peu plus vite en consultation.
Oui. Madame Duchesne, donc, il reste très peu de temps, ouais. Mais comment on peut, parce que vous faites des conférences, vous avez produit des documentaires, films, etc. Ouais. Comment on fait pour trouver ce que vous faites ou ce que vous avez fait? Parce que c'est intéressant pour en apprendre plus sur le sujet. Puis comment s'en sortir? Comment se rétablir, finalement?
Bien, c'est sûr que moi, je suis sur les réseaux sociaux. Là, donc, si on cherche Marlène Duchesne conférencière, que ce soit sur Facebook, j'ai une chaîne YouTube. C'est sûr que moi, je ne fais pas juste des trucs sur le trouble alimentaire. Aujourd'hui, c'est comme d'aider les gens, justement. Je suis plus en prévention. Donc, questionne-toi tes pensées, ton rapport à toi, ton image corporelle. Puis pour ce qui est, dans le fond, du documentaire qui est La peau et les os après, ben ça se trouve sur YouTube là, facilement. Là,
Tu peux juste chercher La peau et les os de Marlène Duchesne.
La peau et les os après. En fait, c'est après. Pas moi qui l'a D'accord. réalisé. Là, moi, j'y ai participé.
OK, OK.
Mais parce que tu as La peau et les os qui existent, mais tu as La peau et les os après. Qui est justement pour susciter l'espoir puis okay. dire aux gens, tu peux t'en sortir. Ouais.
Effectivement, non, c'est super intéressant. Ouais. Merci beaucoup d'avoir démystifié tout ça. Le rétablissement, mais aussi, c'est ces problématiques-là, on n'en parle pas si souvent. Je trouve que vous l'avez bien fait. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'émission.
Avec plaisir.
et bonne continuation.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Je dois longtemps me taire, zoner tout devant, tout derrière, pour frissonner, pour ressentir, pour avoir quelque chose à dire. Mon ami, j'ai rien à t'offrir, que ce silence qui te fera fuir, ou cette parole surchargée qui ne sait plus où se percher. Plus tu demandes, plus tu insistes, plus je me planque, plus je résiste, et je peux lire dans tes yeux, tu te souviens pourquoi on se voit peu, t'avais oublié, ça te revient, je suis un vieillard, je suis un gamin, je bois de l'eau, j'ai pas de scoop, et quand on s'approche trop, je coupe. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance, que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Je dois longtemps aimer, des amours mortes et enterrées, nous voir encore tout le temps partout et m'inventer des rendez-vous. Je dois longtemps ne pas comprendre pourquoi personne n'a su se rendre et prendre l'autre dans ses bras pour écouter ce qui ne sort pas et à faire sauter les miroirs, à m'en faire péter la mémoire. Je sais, on dirait pas comme ça, il me faut rire, rire de moi. Il me faut des lettres anonymes qui m'accusent de tous les crimes et au matin de ma vie m'être fait beaucoup d'ennemis. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance, que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance, que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence. Il me faut longtemps la lutte, la promenade et la dispute. Il me faut explorer mon époque et tout ce qu'elle provoque, contempler mes contemporains qui subliment leur chagrin, mater le mystère et l'héroïsme de danser sous le capitalisme. Tu me dis que tous dansent, même la honte qui monte, même l'absence, que tous dansent, que tous dansent. Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance, que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence.
Notre site web est la porte d'entrée vers tous nos contenus et réseaux sociaux. Branchez-vous sur antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Nous voici maintenant rendus au segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, la question, c'est pourquoi notre cerveau ne s'arrête jamais de penser?
Oui, oui, un article intéressant que j'ai qui s'appelle ainsi, pourquoi notre cerveau ne s'arrête jamais de penser. J'ai pris ça sur le site terreatypique.com et on va voir qu'il y a différentes raisons. Il y a des gens qui ont des cerveaux qui fonctionnent peut-être un petit peu différemment. Les individus, on est tous uniques, supposément.
Ça doit avoir du bon de que le cerveau n'arrête pas de penser, parce que s'il arrêtait de penser, on serait peut-être mort.
Peut-être, mais quand ça pense trop, ça peut être une autre affaire, vas voir.
C'est une autre histoire.
Hein. Oui. Alors, c'est écrit par une dame du nom de Virginie Cottel. Elle est coach et thérapeute pour les hypersensibles à haut potentiel intellectuel et multipotentiel. Il y a différentes raisons pour lesquelles un cerveau de HPI, ce que je viens de dire, c'est-à-dire hypersensible, haut potentiel intellectuel, multipotentiel, ne s'arrête jamais de penser. Alors, pourquoi ce type de cerveau ne s'arrête jamais de penser en particulier? Bien, parce que tu es sur un nouveau projet, par exemple, et que tu es hyper enthousiaste. Ça peut être parce que tu as été très créatif ou créative toute la journée et arrivé le soir, impossible de calmer cette surstimulation. Encore parce que tu vis des moments difficiles et que tu cherches une solution, ou encore parce que tu as reçu une remarque et maintenant ton cerveau tourne en boucle sur le comment réagir à cette mauvaise remarque.
Ou bien tu viens de finir l'émission Folie douce et tu es encore sur un high comme toi et moi.
Ça peut nous arriver.
Non, ça nous arrive après l'émission, c'est dur de redescendre.
Ah, c'est pas facile.
Ah non.
Alors, dans les deux premiers cas, ce cerveau qui pense trop est lié à des sensations positives. Dans les deux derniers cas, à un contexte plus désagréable à vivre. Quand les pensées semblent tourner en boucle et qu'elles ne mènent nulle part, il s'agit alors de rumination. Ce phénomène de cerveau qui ne s'arrête jamais est souvent décrit chez les personnes HPI ou hypersensibles. Pourquoi ce type de gens et de population même? Alors, dans les deux cas, tes sens captent plus de stimuli qu'à la moyenne. Par défaut, ton cerveau est plus sollicité par le bruit, les lumières, les mouvements et les émotions qui t'environnent. Et pour ce qui est des personnes HPI, les scientifiques parlent de troubles de l'inhibition latente. Il manque un filtre aux informations non pertinentes. Par exemple, quand à la terrasse d'un café, plusieurs tables sont occupées, une personne HP va devoir manuellement faire le tri dans les conversations pour rester concentré sur celle qui a lieu à sa table.
Ouais, c'est difficile des fois parce qu'on est en tendance à écouter le côté, puis c'est ça, ouais, c'est vrai.
J'ai déjà remarqué, on dirait qu'il y a des personnes, c'est le contraire. Ils vont se concentrer sur seulement ce qu'ils ont à faire.
Oui, ça dépend, mais souvent, tu entends des gens, c'est vrai que ça peut être dérangeant.
Ouais. Enfin, Mme Cottel nous dit, dans le cas d'une personne qui a un TDAH, c'est-à-dire un trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, ton cerveau peut être submergé par toutes les informations avec la difficulté de trier ce qui est pertinent, ce qui va créer potentiellement un brouillard mental. Donc, au départ, il y a plus de sollicitations pour notre cerveau. Pourtant, personnellement, je n'ai plus cette sensation de penser en boucle depuis que j'ai appris à écouter mes émotions, nous dit Mme Cottel. Et oui, on en arrive encore une fois aux émotions. Ruminer, c'est comme essayer de digérer sans mâcher. C'est trop gros et ça ne passe pas. Les faits sont toujours neutres. Qu'on ait un accident, une dispute, c'est un fait. Ce qui change notre façon de la vivre, c'est notre perception de l'événement. Quand on commence à l'interpréter, de là, une pensée va émerger et cette pensée est à l'origine d'une émotion. Par exemple, si ton partenaire te dit « tu aurais pu faire mieux », et que votre pensée est « il se fiche de moi, il est incapable de faire ce que je fais », l'émotion qui va en découler sera probablement de la colère. Par contre, si votre pensée est « je me suis encore planté, je suis nul », il est plus probable que votre émotion soit de la tristesse. Ou encore, si tu penses « tiens, il me connaît bien, il connaît ma valeur », il y aura plus probablement un sentiment de fierté et de curiosité pour comprendre ce que votre partenaire a voulu te dire. Et là où cela peut devenir vraiment intéressant, c'est d'observer ces pensées pour choisir celles qui te seront plus utiles. Et ça, c'est la première des astuces pour arrêter ce cerveau qui pense trop. Cependant, si tu ressens de l'angoisse ou de l'anxiété, arriver à choisir ces pensées est très compliqué. C'est là où tu auras besoin d'une aide extérieure avec un professionnel de la santé mentale. Si tu sens que tu es en difficulté seul avec tes pensées, tu peux faire appel à eux. Maintenant, comment peut-on faire pour stopper ce cerveau qui mouline et qui nous fatigue? Eh bien, Mme Cotel nous suggère 5 façons. Premièrement, apprendre à observer ses pensées. La première des astuces va être d'apprendre à ne plus vivre ses pensées comme si elles nous définissaient. Plus facile à écrire qu'à faire, j'en conviens totalement. Et c'est bien le sujet de la méditation ou de la religion bouddhiste. Apprendre à observer ses pensées pour ne plus être le jouet de son mental. Par où commencer? Par respirer, prendre le temps de l'inspiration et de l'expiration au moment où l'on ressent une émotion monter. Cela te donne le temps d'observer ce qui se passe en toi et de faire ce petit pas de côté pour débusquer notre discours intérieur. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Quelles sont les pensées qui me traversent? Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Cette première étape est fondamentale. La méditation est une vraie aide pour museler notre aptitude à observer nos pensées. Mais je m'arrête ici, Yvan.
Oui, bien, c'est parfait.
J'ai arrêté mon cerveau de penser.
Ben oui, c'est ça, arrête quelques instants. On poursuivra donc le même sujet. Pourquoi notre cerveau ne s'arrête jamais de penser à l'espresso allongé?
Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair.
J'accueille maintenant notre collaboratrice Véronique Bourbeau. Bonjour Véronique.
Bonjour Yvan.
Alors aujourd'hui, tu nous amènes encore une fois une très bonne chronique. Tu es naturopathe agréée et herboriste clinicienne, beaucoup d'expérience dans le domaine de la santé, mais souvent peut-être avec des alternatives, je dirais un peu plus, que la médecine traditionnelle.
Des compléments.
Des compléments, exactement.
Oui. C'est
des compléments, puis on cherche ça souvent en santé. Alors aujourd'hui, tu nous amènes un autre sujet. De quoi il s'agit?
Oui, en fait, aujourd'hui, on va parler de l'horreur et du merveilleux de la périménopause.
Oui.
Oui, donc aujourd'hui, en fait, je pensais vous parler d'une autre facette de la périménopause, mais avant, j'aimerais ça commencer par le côté sombre. Donc, cœur sensible, s'abstenir, là, je vous propose de faire un micro-tour d'horizon sur l'histoire de la condition féminine en lien avec la ménopause. Il faut savoir que tout d'abord, la toute première dissertation médicale écrite sur la ménopause, qui date de 1710, se nommait ainsi. C'était les dernières menstruations, le début des maladies. Hein? Donc, ça inaugurait pas super bien et une femme, par nature, était condamnée par le vieillissement. De l'Antiquité jusqu'au 20e siècle, la médecine était fondée sur ce qu'on appelle la théorie des humeurs. Et selon cette théorie-là, le corps est constitué de 4 éléments, le sang, la bile, le phlegme, l'eau, et 4 qualités, le chaud, le froid, le sec ou l'humide. Et pour être en santé, il fallait que ces éléments-là et ces qualités-là demeurent en équilibre et qu'ils circulent librement. Il coexistait avec cette théorie-là l'idée que la femme est impure et qu'elle requiert donc des menstruations pour se purger et évacuer sa toxicité. À cette époque, l'entrée donc en ménopause était considérée comme une perte de capacité ou de force à éliminer cette charge-là toxique qui alors s'accumule et engorgeait les fameuses humeurs. C'est ce qui forgeait un terreau à la maladie. Et on définissait entre autres que l'accumulation du sang, c'est ce qui donnait les bouffées de chaleur, l'enflure abdominale, la prise de poids et que la toxicité qui n'était pas évacuée perturbait le cerveau, la mémoire et le sommeil. Hein. Donc, on constate que pendant des siècles, les femmes n'ont pas eu beaucoup d'issues. Une femme, c'est impur, ses menstruations sont un fluide toxique, puis une fois ménopausée, ben, elle devient encore plus toxique. Le statut de la femme ménopausée au 18e siècle, ben, c'est pas diable mieux. Hein. Cette époque-là, on jugeait normal et naturel qu'elle soit délaissée par son époux parce que la vocation sociale de la femme était définie par sa capacité à engendrer la vie. Et donc, la ménopause représentait une perte importante de valeur et du statut social. Au 19e siècle, on propose le recours même à des sangsues pour purger les pauvres femmes qui ont eu le malheur de vivre assez longtemps pour être ménopausées. C'est à cette époque qu'on établit une relation entre la cessation de la fertilité et l'aliénation mentale. On parle d'hystérie et de folie en lien avec la fin des menstruations. Et même, on interdit aux hommes d'avoir des rapports sexuels avec des femmes ménopausées. Là, on est dans les années 1850. C'est là que sont apparus les premiers guides de la sexualité conjugale. On désexualise la femme qui n'a plus de menstruation. Donc, la femme dont la peau flétrit n'a désormais que deux choix à l'époque. Hein. C'est bien inscrit dans la littérature, c'est l'ivrognerie ou le service religieux. On arrive au 20e siècle et c'est là que se développe la vision plus biologique avec la naissance de l'endocrinologie et la connaissance des hormones. En 1969, et là c'est très récent quand même dans notre histoire. Non, ça fait pas longtemps. Il y a un psychiatre américain du nom de David Rubin qui avait écrit à propos des femmes dans un ouvrage médical que ayant épuisé leurs ovaires, elles ont épuisé leur utilité en tant qu'être humain. La ménopause est encore vécue comme un drame féminin et un autre synonyme de rejet. Ça fait juste 55 ans.
Incroyable quand même. Hein,
c'est incroyable.
Oui. Non, mais la femme a souvent été très mal maltraitée en quelque sorte.
Ah, ben, depuis toujours, je dirais. Ouais. Là, c'est, oui, ouais, ça perdure malheureusement encore dans certaines régions et certaines cultures aussi. Et là, on arrive dans les années 60, les années 70 aux États-Unis. On décrit la ménopause comme une affliction qu'on doit adresser et donc un problème qui requiert une solution. On commence à médicaliser ce passage-là naturel. Comme on l'affirmait jadis, la prise d'hormones entend restituer aux femmes leurs atouts perdus. Donc, il faut quand même avoir du front, hein, parce que la qualité de vie des femmes n'était pas la raison de l'hormonothérapie, mais c'était plutôt le maintien de la fermeté, entre autres, qu'on recherchait. Dans cette conception-là très macho-patriarcale occidentale, hein, donc on est femme de la puberté jusqu'à la ménopause. Mais au-delà de ce point-là, la société ampute librement les femmes de leur pouvoir de séduction. Dans l'inconscient collectif, c'est que la femme sert à séduire l'homme dominant et lui donner des enfants. Et donc une femme, les femmes sont des humains dépréciables une fois qu'elles avancent en âge. On arrive ensuite dans les années 2000. Et là, on entre dans le culte de la jeunesse éternelle. Hein. Les attributs de la jeunesse, c'est ce qui est fortement valorisé comme le socle de ce qui est désirable. Donc, on bâtit, bien sûr, on monte une industrie hyper lucrative pour camoufler notre âge en tant que femme. Les femmes travaillent très fort à ne pas vieillir afin de demeurer peut-être en quelque sorte dans le registre traditionnel ou culturel de ce qui est séduisant. La ménopause fait encore donc collectivement violence aux femmes. Et aujourd'hui, avec tout ce conditionnement-là transgénérationnel et culturel, on peut comprendre pourquoi les femmes ne sont pas généralement enthousiastes, hein, à l'arrivée de la ménopause. Comment apprécier et vivre harmonieusement cette période-là quand, dans le discours commun depuis l'Antiquité, la ménopause est synonyme de perte, d'exclusion, de dégénérescence, de carence, de facteurs de risque et de détresse? La ménopause est depuis toujours une tragédie féminine dans l'histoire de l'humanité. Donc, je pense qu'il est vraiment temps d'infuser plus de sens. Hein. Et considérant qu'une femme vivra près de la moitié de sa vie en ménopause, c'est beaucoup trop long pour être mal vécu.
Surtout aujourd'hui, effectivement, les gens
absolument
vivent plus vieux. Fait que,
mais, oui, on a changé la donne.
Oui, il faudrait dire qu'il n'y a pas tant de modèles non plus, tu sais, de femmes dynamiques, non, ménopausées, qui semblent être heureuses et qui remontent cette image-là aux gens. T'sais.
Oui, effectivement. Hein. Et Puis justement, ceci étant dit, Yvan, je suis très au fait là, que les changements induits par la chute des hormones, c'est pas du tout banal. Hein? Je cherche pas du tout à minimiser le choc physique, le choc psychique que vivent plusieurs femmes dans cette période-là. Mais j'aimerais ça, en fait, faire une invitation à découvrir la face cachée de la ménopause ensemble aujourd'hui.
Ouais.
Et si on changeait le discours du déclin pour un discours de gain? Je pense qu'il est grand temps. Hein?
Oui.
Effectivement, pour développer une image positive, il faut transformer les mentalités en commençant peut-être par la nôtre. D'abord, on n'a pas de ménopause à vaincre. Ce n'est pas une lutte à gagner ni une épreuve insurmontable. La ménopause, c'est une évolution de la vie. Ce n'est pas une involution de la femme.
C'est pas une maladie hein, non plus.
Non, exactement. Hein?
C'est un cycle.
Et en Asie, dans la conception orientale de la médecine chinoise, c'est très intéressant. On dit que les femmes qui entrent en périménopause vivent une baisse de l'énergie yin. C'est ce qui explique qu'elles vont délaisser naturellement la sphère maternelle. Et ça va s'accompagner par une saine baisse de volonté à être au service des autres. La diminution de l'énergie yin permet donc aux femmes de se tourner vers elles-mêmes, de devenir enfin prioritaires et de veiller sur elles d'abord. C'est le temps opportun pour avoir un retour du balancier, hein? Et en contrepartie, les femmes vivent aussi une hausse de l'énergie yang, qui est une énergie de manifestation, de prise de position, puis d'affirmation. Donc, cette transformation-là hormonale avec les changements d'énergie tels que vus dans la conception orientale, bien, c'est aussi c'est un moment de grande puissance. Il y a des cultures qui honorent, il n'y en a pas assez, mais bon, il y a des cultures qui honorent ce passage-là en conférant aux femmes ménopausées un statut supérieur. Elles passent du statut de princesse à celui de reine. Et pourquoi pas s'en inspirer, développer son amour-propre, et mettre la hache dans la société patriarcale occidentale qui disqualifie les femmes ménopausées. Quand j'arrive à 50 ans, je me tiens devant la mi-temps de ma vie. J'ai du vécu, j'ai peut-être donné naissance, j'ai possiblement materné, j'ai nourri, j'ai protégé, j'ai servi, j'ai supporté, j'ai contribué, j'ai guidé, j'ai conseillé. Mes mains sont pleines de travail, ma tête est pleine d'expérience. Il y a de quoi se valoriser et s'honorer.
Et on a plus de temps, souvent aussi?
Pour
certaines.
On n'arrive pas toujours au moment de la ménopause, on n'arrive pas toujours en retraite, malheureusement.
Non.
On est souvent, c'est ça, au paroxysme là, de sa carrière. Là.
L'âge de la ménopause, c'est quoi? Entre 45 et quoi?
Bien, en fait, on tourne plus autour de 52-55 pour la ménopause, la cessation des règles, mais la périménopause, c'est les années qui viennent avant et au début de la cessation des règles. Fait que là, ça peut couvrir une période de 10 ans.
Okay.
Ça peut être très, très long, oui. Fait que la ménopause, ça nous affranchit les femmes hein, de notre fonction de reproduction. Donc, je peux choisir à vieillir sur mon bien-être plutôt que celui des autres. Ça peut être une opportunité pour gagner en liberté. La périménopause, ça peut être une période parfaite pour écouter davantage le langage du corps et apporter des changements positifs dans mon mode de vie. La périménopause, avec son cortège de symptômes, peut nous pousser à l'auto-évaluation. Ça peut être une occasion en or pour dresser un bilan. Ce sont les habitudes de vie qui forgent le terreau à la santé, mais aussi à la maladie, hein? Donc, je pourrais jamais séparer l'humain de son mode de vie. On sait que le style de vie, c'est un facteur qui influence l'intensité aussi de mes symptômes dans cette période-là. Donc, plus je suis symptomatique, plus j'ai d'introspection à faire et des changements à apporter. Et donc, quel changement dois-je apporter afin de prendre davantage soin de moi? Quels sont mes besoins? Comment créer plus de satisfaction dans mes journées et dans mes relations? Est-ce que je vis réellement en fonction de mes valeurs, mais surtout, comment est-ce que j'ai envie de vivre la deuxième moitié de ma vie?
Ouais.
La périménopause, ça permet de décanter sa vie, de faire une pause et on le souhaite repartir mieux. C'est un second souffle qui permet de développer une nouvelle attitude de vie. Et moi, je vois que la ménopause, ça n'est pas nécessairement une malédiction, mais ça peut être une bénédiction, Yvan.
C'est le message que je veux passer aujourd'hui. Oui, d'après tes observations, il reste un petit peu plus qu'une minute, mais d'après tes observations, est-ce que tu vois de plus en plus de femmes, parce que tu vois toutes sortes de gens dans ta pratique, est-ce que tu en as des femmes qui sont quand même qui vivent bien avec la ménopause?
Ah oui, absolument. C'est sûr que ça demande de l'adaptation, hein, mais ça, selon moi, c'est la nature profonde de la femme, la capacité de s'adapter.
Oui.
Mais ça demande une belle introspection, puis de se dire les vraies choses et d'apporter les vrais changements. Hein. Donc, mais c'est, je pense que c'est une belle opportunité, malgré l'ensemble des symptômes là, qui peuvent être dans tous les sens, ça peut être très déroutant. Là. C'est un passage obligé. Hein, 100% des femmes, dans mes statistiques, vont vivre une ménopause. Ouais. Donc, aussi bien le vivre bon gré que mal gré. Puis il y a des choses qu'on peut apporter, effectivement, hein, que ce soit des hormones ou que ce soit d'autres façons qui ne seront pas pharmaceutiques. Ça peut être par une approche... De produits complémentaires en naturopathie. Ça peut être un accompagnement dans la gestion de stress ou la qualité du sommeil. Il y a plein de choses qu'on peut apporter pour faire ce passage-là, un terreau plus favorable à une santé globale.
C'est très positif. Parler de la ménopause différemment, de façon plus positive. Merci beaucoup, Véronique, d'avoir été des nôtres.
Ça fait plaisir.
Tu es naturopathe agréée et herboriste clinicienne. Pour en savoir plus, d'ailleurs, tu as deux sites, le site masantemeshormones.com pour en apprendre beaucoup sur tout ce qui concerne les hormones et aussi le site de ta clinique, cliniqueintégrative.com. Merci d'avoir été des nôtres à Folie Douce et à la prochaine.
Ça fait plaisir, Yvan.
Dis-moi que c'est pas sérieux ce que j'arrive à lire dans le blanc de tes yeux. Je t'en prie, dis-moi. J'invente tout ça que c'est dans ma tête et ça n'existe pas. Oh non, dis-moi que c'est pas sérieux. Force-toi, maman, mets-moi en plein les yeux. Je t'en prie, dis-moi qu'on n'est pas rendu là. Je peux changer, je fais tout ce que tu voudras. Pour du jour au lendemain, t'en ai plus rien à faire. Je suis à genoux là maintenant. Puis je t'en supplie, faut que tu m'expliques comment l'amour devient mépris. Je suis là, je peux tout entendre. T'inquiète-moi si je m'haïs.
L'émission Folie Douce, le rendez-vous hebdomadaire radiophonique traitant de santé mentale.
On poursuit maintenant au micro avec l'espresso allongé. Pierre, tu as commencé un sujet, une question, en fait, plus tôt dans l'émission. Pourquoi notre cerveau ne s'arrête jamais de penser? C'est intéressant. Tu nous as fait connaître beaucoup de trucs aussi, de trucs et de situations. Mm-hmm.
Ouais. Alors, c'est d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle ainsi. Et c'est sur le site terreatypique.com. C'est écrit par une dame du nom de Virginie Cotel. Et on voit dans cet article qu'il y a des gens qui sont hypersensibles, qui ont certaines dispositions qui font que Ça peut être pire, ça peut être sans arrêt.
Ça peut être
un handicap, finalement.
Oui, c'est ça. Ils sont vraiment pas capables de,
ouais.
de c'est trop, là, c'est
ouais.
ça. Ouais.
Alors, cette Mme Cotel nous suggère 5 façons pour stopper, ou en tout cas essayer de stopper ce cerveau qui mouline et qui nous fatigue. Alors,
à vitesse grand V.
Oui, alors, il y avait une première façon, c'était d'apprendre à observer ses pensées. Et elle nous disait, ben, il faut respirer. Prendre le temps de l'inspiration et de l'expiration au moment où l'on ressent une émotion monter. Cela te donne le temps d'observer ce qui se passe en toi et de faire ce petit pas de côté pour débusquer notre discours intérieur. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Quelles sont les pensées qui me traversent? Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Cette première étape est fondamentale. La méditation est une vraie aide pour museler notre aptitude à observer nos pensées. Mais il existe d'autres techniques pour prendre de l'espace par rapport aux pensées. Certains préfèrent la marche, faire la vaisselle. Moi, je la fais la vaisselle, mais j'aime pas ça.
Non, moi non plus, j'haïs ça. Je déteste ça.
Une fois qu'elle est faite, je me sens mieux, par exemple.
Ouais.
Il y a le tricot aussi. Ça non plus, je fais pas ça. Il y a le yoga. Ça non plus, je fais pas
tu
ça.
Tu m'as cramé, fais-tu ça?
Non, mais je fais beaucoup de marche, par exemple. Ouais. Alors, on peut essayer de trouver la méthode qui nous convient le mieux. Deuxième façon de stopper le cerveau, nommer l'émotion. La seconde étape pour t'aider à stopper ton cerveau qui pense trop va être de mettre un nom sur ton émotion. Il est reconnu par des études scientifiques que le simple fait de nommer l'émotion que nous vivons permet de redescendre en intensité. C'est comme si on lui disait « je t'ai vu ». L'émotion est une information et elle ne dure que de 1 à 3 minutes. La nommer, c'est un moyen de l'accueillir et de lui laisser la possibilité d'exister. Si elle n'est pas reconnue, elle va continuer à se présenter de plus en plus fort, jusqu'à créer l'effet « cocotte minute », exploser à un moment où tu ne t'y attends pas.
Le bon vieux presto, finalement, la cocotte minute, c'est ça, c'est le presto, oui. Tu sais, c'est ça, il y a de l'estime, puis ça explose.
Moi, c'est quelque chose que je ne me sers pas non plus.
Non.
En tout cas, fait que là, tu vois que je ne suis pas un grand cuisinier, mais peu importe. Troisième façon d'essayer de stopper le cerveau, c'est de comprendre le besoin. Un besoin a plus besoin d'être reconnu qu'assouvi. Cette phrase est issue de ce qu'on appelle la CNV, c'est la communication non violente. C'est une méthode qui fut formalisée par M. Marshall Rosenberg, qui est psychologue américain. La CNV a pour objectif de nous donner les clés pour communiquer sans nuire à autrui. Cette approche nous invite à comprendre ce qui se passe en nous et de faire un travail d'auto-empathie avant de s'exprimer. Cela passe, par exemple, par reconnaître nos émotions et les besoins cachés derrière. L'utilité de l'émotion est de t'indiquer un besoin. Par exemple, la peur exprime souvent un besoin de sécurité, de réassurance et de protection. Ignorer son émotion, c'est aussi ignorer son besoin. Or, si tu n'y réponds pas, il y a toutes les chances pour que tes pensées tournent en boucle et reviennent sur ce besoin d'une façon ou d'une autre, puisqu'il n'a pas été pris en compte. Je pense, nous dit Mme Cotel, que la meilleure façon de stopper les ruminations, c'est de comprendre les besoins qui se cachent et d'y répondre. Parfois, le simple fait de mettre en lumière nos besoins peut suffire à faire dégonfler toutes les pensées, les angoisses et les craintes. Souvent, le besoin est simple. Quand je pense à mon client qui avait peur de se lancer en tant que freelance, quand il a compris que ce qui le retenait, c'était de ne pas avoir assez d'argent pour mettre sa famille à l'abri financièrement. Son besoin était d'avoir une somme d'argent de côté. Il a défini cette somme qui le rassurait et pouf, nous dit Mme Cotel, quelques jours plus tard, sa carrière était lancée. Quatrième façon de stopper notre cerveau, c'est de choisir ses pensées. Toutes nos pensées ne nous veulent pas du bien. Certaines sont même franchement toxiques. Et ce qu'il y a de si fou, c'est qu'on peut croire que nos pensées sont vérité. Or, nos pensées, nous pouvons les modifier. Nous pouvons choisir de croire quelque chose qui nous est utile et qui nous fait du bien plutôt que détecter les mêmes jérémiades? Pour cela, tu peux tester deux exercices. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'exercice de gratitude. Chaque soir, avant de te coucher, note dans un carnet trois moments agréables qui t'ont fait du bien, dont tu voudrais remercier quelqu'un ou quelque chose. Madame Cotel nous dit « J'ai réalisé cet exercice pendant 3 semaines et c'est là que j'ai commencé à avoir des changements. J'ai senti un certain détachement par rapport aux choses négatives qui pouvaient m'arriver. Ces événements désagréables n'avaient plus du tout le même impact sur moi. Cela m'a même surprise de constater qu'avant, j'aurais été toute retournée et que j'aurais mis des heures à m'en remettre. Et maintenant, j'ai développé cette capacité à relativiser presque naturellement par rapport à la situation. » Au début, tu auras certainement du mal à trouver 3 moments agréables. C'est normal, tu n'es pas entraîné à cela. Et ton cerveau a un biais de négativité. Il repère d'abord le danger et ce qui ne va pas. C'est pourquoi cela demande d'apprendre et de persévérer. Alors, Yvan, je dois m'arrêter ici, mais les gens pourront compléter la lecture de l'article.
Oui, bien sûr. Donc, pourquoi notre cerveau ne s'arrête jamais? La référence sera sur notre site web dans la section mentionnée à Folie douce, notre site web antenne.qc.ca, sous ta chronique. Merci, Pierre.
Bienvenue.
Sont venus voir, d'autres venus pleurer. Moi je suis là pour t'enguer, ôte-toi de mon été. Attends-tu le vertige ou attends-tu l'ondée? Je suis là pour la chancelle, ôte-toi de mon soleil. Est-il vrai qu'à la fin de la danse, héroïque, on retourne à l'enfance? J'attends l'escorte, la terre ouverte, une étincelle. Moi je suis là pour la chancelle. J'entends accorde comme une rumeur d'avant la peur. Oui je suis là pour les lueurs. Certains sont venus voir, d'autres venus pleurer. Moi je suis là pour le bal, ôte-toi de mon étoile. Attends-tu la faillite? Attends-tu les lauriers? Je suis là pour la chancelle, ôte-toi de mon soleil. Est-il vrai qu'au bout de la jetée, aux merveilles, ce n'est pas l'arrivée? J'entends accorde comme une rumeur d'avant la peur. Oui, je suis là pour les lueurs. J'attends l'escorte, la terre ouverte, une étincelle. Moi, je suis là pour la chancelle. Je suis là pour la chancelle.
Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Avant de compléter ce rendez-vous de Folie douce, on va y aller avec la nomenclature des chansons entendues cette semaine.
Mm-hmm.
La première, Cardin.
De Clay and Friends avec Marilyn Léonard.
On a entendu Que tous dansent.
De Noé Prechoff.
On a entendu dans la deuxième moitié de l'émission Le blanc des yeux.
De Roxane Bruno.
Et à l'instant, La chancelle.
De Armand Méliès.
Merci beaucoup pour ce choix musical et pour ton travail en régie.
Ben, bienvenue, mon cher.
Merci également pour ton sujet, ta question à l'espresso et à l'espresso allongé. Tu nous posais la question pourquoi notre cerveau ne s'arrête jamais de penser. Tu as donné plusieurs pistes d'informations. Merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Marlène Duchesne, nous a parlé du rétablissement des troubles alimentaires. Nous a aussi démystifié tout le côté des troubles alimentaire. C'était très intéressant de la recevoir. Notre collaboratrice Véronique Bourbeau a apporté de son côté une chronique assez originale, la face cachée positive de la ménopause. Alors tout ça à Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.